ce cancer, que vous ne savez pas ce qui en sera l'issue, mais qu'avant vous aimeriez au moins que recevoir un petit signe de sa part, que vous resterez encore une fois à distance si elle le souhaite, mais qu'au moins qu'elle puisse vous donner vos nouvelles.
D'accord.
Et puis demander des nouvelles de vos petites filles. D'accord, Perrine, et tenez-nous
d'accord.
au courant surtout de cette bouteille à la mer.
D'accord, je vous remercie beaucoup. Roland.
Je vous en prie, Perrine, je vous embrasse très fort.
Merci, moi aussi.
À bientôt, Perrine. Voilà, cette émission s'achève. Il est 1h du matin sur Europe 1. Je vous retrouverai demain avec grand plaisir. Et je vous laisse avec Marlène Duret. Bonsoir, Marlène.
Merci, Roland. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous embrasse. Europe 1, il est 1h. Ces trois prochaines nuits, je vous propose de remonter le temps jusque dans les années 70. On va passer un bon moment en compagnie des plus grandes vedettes de la chanson française à travers l'une des émissions phares de l'époque, 5-6-7, qui était présentée par Jacques Horevitch entre 1973 et 1975. Le concept, faire chanter à des artistes les succès des autres. Et on commence aujourd'hui par Claude François.
Claude François, bonjour. Lorsque nous t'avons demandé de venir chanter les chansons des autres, tu as d'abord été pris d'un sentiment de pudeur à l'égard des chansons que d'autres ont écrites, composées ou interprétées.
D'abord, c'est une chanson, la chanson d'un autre, c'est pas la nôtre. Alors que les Américains, eux, s'échangent gaillardement les chansons, j'avoue qu'en France, on est un très conservateur dans ce sens-là, et dans beaucoup d'autres, mais dans celui-là précisément, et on a quelques pudeurs à chanter les chansons des autres. D'ailleurs, je trouve que c'est une merveilleuse initiative parce que ça fait des années que je conseille cela, que je demande le pourquoi du fait qu'on n'enregistre pas sur un 30 cm des chansons d'autres chanteurs. Moi, je ferais parfaitement 5-6 chansons nouvelles sur le 30 cm et les 5-6 tubes à la mode, à ma façon, sur ce même 30 cm. Je trouve que ça serait merveilleux, c'est strictement ce que font les Américains, et s'ils le font, c'est que c'est une logique extrême, et je suppose que si tout le monde le faisait, je n'aurais plus, moi, personnellement, cette espèce de remords à chanter les chansons des autres, et je crois surtout que les acheteurs des 30 cm n'y perdraient pas, parce qu'ils auraient, bon, d'abord une bonne chanson, puisque ça aurait été un tube type, et à la façon d'eux. Je trouve que c'est merveilleux. D'ailleurs, si on le fait par la suite, il serait logique qu'on verse des droits d'auteur à Europe numéro 1, qui a pensé à cela avant tout le monde, et à Horevitch, bien sûr.
Eh bien, voilà une excellente idée. Claude, la première chanson d'un autre que tu as choisi est une des chansons de Mike Brandt. Qui sera ? Connais-tu bien Mike Brandt ?
Oh, je connais Mike mal, parce qu'il est difficile de bien connaître Mike dans la mesure où il ne parle pas spécialement bien le français. Et dans la mesure où il doit être comme moi, ça serait une réponse à la question qu'il se pose à mon sujet, car je sais qu'à gauche, à droite, il m'envoie des messagers très indirects qui me disent « Mike, t'as vu l'autre jour et tu lui as pas parlé, alors il se demande pourquoi tu lui en veux, etc. » En fait, c'est pas du tout ça, c'est strictement comme lui, on est des deux énormes timides. Et moi, j'ai encore en plus sûrement beaucoup de pudeur qui fait que, et c'est mon fameux défaut, c'est d'où ma chanson du mal-aimé, j'ai l'impression de gêner les gens quand je les regarde dans les yeux, je parle pas du public, je suis chez moi, je peux avoir 10 000 personnes devant moi, ça me gêne pas, mais les gens en général, en société, dans un restaurant, dans un club, dans les endroits où j'aperçois Mike, on a un dénominateur commun, on est super porté sur les jeunes filles qui viennent faire des photos de mode à Paris, et alors évidemment on se retrouve quelquefois sur la même fiancée l'un et l'autre, et alors c'est peut-être dans ce sens-là qu'il croit que effectivement je peux lui en vouloir. Je voudrais le rassurer tout de suite, pas du tout dans ce sens-là, au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour plusieurs points pour Mike Brandt, et je suis ravi d'avoir chanté cette chanson beaucoup moins bien que lui, sûrement c'est bien la sienne, comme d'ailleurs toutes les autres chansons, on n'arrive pas à la chanter aussi bien que l'original, c'est évident, mais j'ai chanté avec le cœur en tout cas.
Vous mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier. ma seule raison de vivre. Essayez de me le dire, qui saura, oui, qui saura. Vous, mes amis, essayez de comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je sais qu'elle ne reviendra plus. Alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui saura, qui saura, qui saura. Le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura.
Deuxième chanson choisie par Claude François, celle d'un de ses amis et disciples, Alain Chamfort.
Mais cette chanson, je l'ai chantée parce que bon, j'étais en train de chercher les chansons avec ma camarade Marie-France et on se demandait bien ce que je pouvais chanter. On est toujours gêné dans ces cas-là. Je vous dis, on est mal à l'aise. Alors on se dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir chanter? Je cherche bien. Je lui dis, ça serait quand même drôle que je puisse chanter une chanson que j'ai dirigée quand même en séance d'enregistrement, à laquelle j'ai participé encore plus que d'habitude puisque j'ai écrit le texte de cette chanson. Alors je me suis dit, tiens, je vais chanter L'amour en France pour voir l'effet que ça fait. Eh bien, je dois dire que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Quand on est de l'autre côté de la vitre et qu'on arrête et qu'on dit, mais non Alain, il faudrait faire ça et ça, finalement quand on se retrouve dans la situation du chanteur, de l'interprète, on se dit que c'est finalement plus difficile, sous des apparences extrêmement faciles. C'est un petit peu le charme de cette chanson.
C'est l'amour en France. Et plus toi qui m'aimes autant. chanson où on se réconcilie.
Allons, si tu le veux bien, évoquer maintenant un des bons moments de 5-6-7. C'était en décembre dernier, nous te consacrions une spéciale et Éric Chardin était un de tes invités. Éric, qui avait composé il y a quelques années un de tes gros succès, Mais quand le matin.
Mais quand le matin est un succès qui a permis, je crois que je peux le dire, à Chardin, hein, pas à Stone et Chardin, à Chardin tout seul, de... C'est un petit peu comme en bourse, la chanson. Je pense aux programmateurs de radio et de télévision. On accorde un certain crédit et donc la cote monte à partir d'un point, d'une preuve quelconque. Or, quand Mais quand le matin a marché merveilleusement bien, comme on s'en souvient, on s'est tout de suite posé la question, qui a fait cette chanson? On a cherché, on a dit, tiens, c'est Chardin.
Des arbres géants, couverts de fleurs de sang. Rampe vers moi, je voudrais fuir, mais je ne veux pas. Je pousse un grand cri, je me réveille dans mon lit. Mes mains tremblent. Mais quand le matin, je vois le soleil le matin, aussitôt j'oublie les angoisses.
Troisième chanson choisie par Claude François, Les Divorcés de Michel Delpech. Pourquoi ?
C'est mon problème, pratiquement, disons que c'est le problème de tout adulte. C'est un problème d'adulte, de toute façon, les divorcés. Toute personne ayant eu un enfant, je suppose, a dû être touchée par cette chanson. C'est, je crois, le fameux ingrédient qui a fait que tout le monde a été sensibilisé par cette chanson. Et moi, j'ai quand même, de ce côté-là, un peu comme tout le monde, que des difficiles, puisque j'ai un fils, sans être marié avec la mère du fils, ma vie étant telle que je ne peux pas vraiment vivre avec eux, y a une espèce d'horrible sentiment de culpabilité qui s'impose, là. Alors, bien sûr, moi, c'est pas Stéphanie, c'est Claude, il s'appelle Claude, enfin Coco, puisque c'est son surnom. Et évidemment, je crois que tout le monde a eu envie de fredonner ou de chanter cette chanson, ou si ce n'est de la chanter, de la réciter, enfin d'y penser, en tout cas de la vivre quelques instants, dans le sens de la mise au point qu'on peut se faire moralement, d'espèce d'interrogation de conscience qu'on peut se faire. Pour ça que j'ai voulu la chanter.
On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents. Le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie, il a fallu que je t'accuse. Tu garderas l'appartement, Je passerai de temps en temps quand il n'y aura pas d'école. Ces jours-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie, j'ai toujours été son idole. Si tu manquais de quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi en attendant que tu travailles. Je sais que tu peux t'en sortir, tu vas me faire le plaisir de te jeter dans la bataille. C'est fichu. Entre nous, la vie continue malgré tout. C'est maintenant, c'est passé, mais au début j'en ai bavé. Je rêvais presque de vengeance. Évidemment, j'étais jaloux. Mon orgueil en a pris un coup. Je refusais de te comprendre. À présent, ça va beaucoup mieux. Et finalement, je suis heureux que tu te fasses une vie nouvelle. Tu pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie, ce serait merveilleux pour elle. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout. Les amis vont nous questionner, certains vont se croire obligés de nous monter l'un contre l'autre. Ce serait moche d'en arriver, toi et moi, à se détester et à se rejeter les fautes. Alors il faut qu'on ait raison, car cette fois-ci c'est pour de bon. C'est parti pour la vie entière. Regarde-moi bien dans les yeux et jure-moi que ce sera mieux, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Si c'est fichu entre nous, la vie continue malgré tout.
Un autre bon moment passé à 5-6-7, nous fêtions les 20 ans de l'Olympia, et à cette occasion, nous avons tous rendu hommage à Bruno Cocatrix en chantant certaines de ses chansons. Quand je dis tous, il y avait, si ma mémoire est bonne, Joe Dassin, Enrico Macias, Gérard Lenormand, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, et toi, Claude. Et tu avais chanté Clopin Clopin.
Oh, Clopin Clopin, c'est toute une époque. Il me semble que je l'ai chanté quand j'avais une quinzaine d'années, à l'orchestre avec Barelli. J'étais chanteur d'orchestre avec Aimé Barelli et Louis Frosio. Je suppose que je l'ai chanté à l'époque. Je me souviens que, pour une fois, parce que ça ne m'arrive jamais, j'étais arrivé en retard à l'émission et que j'avais fait vite et j'avais pris une mauvaise tonalité. Alors je crois que c'est une tonalité où je suis pas à l'aise, mais enfin c'est une chanson tellement superbe dans sa simplicité et dans son émotion que je crois que je l'ai chantée avec plaisir.
Je suis né avec des yeux d'ange et des fossettes au creux des joues. J'en ai plus de jours. J'ai perdu mes joues et mes langes et j'ai cassé tous mes joujoux. Je me suis regardé dans une une glace et j'ai vu que j'avais rêvé. Je me suis dit, faudra bien que je m'y fasse.
J'ai rattrapé, hein.
Tout finira par arriver et je m'en vais clopant, clopant dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle. Il y a des souvenirs qui s'annoncent. Et je m'en vais clopant, clopant, en promenant mon cœur d'enfant. Comme s'envole une hirondelle, la vie s'enfuit. Tire d'elle, ça fait si mal au cœur d'enfant qui s'en va seul, clopant, clopant, qui s'en va seul, clopant, clopant.
La quatrième chanson choisie par Claude François est « La belle histoire » de Michel Fugain. As-tu choisi cette chanson, Claude, pour rendre hommage à l'expérience communautaire de Michel et du Big Bazar ?
Le Big Bazar, en fait, tiens, je vais donner une petite explication. Il y a de cela, je crois, à peu près 150 ans, vivait un docteur qui s'appelait le docteur Fourier, d'où une discipline, une philosophie qui s'est appelée le fouriérisme. Mot découlant du nom Fourier, du nom propre Fourier. Et le docteur Fourier avait imaginé de faire vivre tout le monde dans une grande maison. Il avait pris des tas de gens différents et puis il avait analysé le rendement et la situation, les échanges d'humeur, le comportement de chacun. Alors évidemment, on est tous pareils, on est humains, on a envie en société de vivre comme ça. Parce que d'abord, c'est le contraire de ce vers quoi l'on tend de plus en plus, c'est-à-dire l'isolement, c'est-à-dire, disons, l'Amérique, c'est-à-dire chacun pour soi, et puis on ne se revoit plus. Et dans cette jungle où chacun se fiche de ce que fait le voisin d'à côté, c'est presque le rêve de créer une espèce d'île déserte au milieu de cet océan d'indifférence, une île déserte sur laquelle on regrouperait toutes les personnes qui auraient des tas de choses en commun et qui se, si j'ose dire, qui se rendrait complémentaire, puisque le mot est difficile à prononcer. Et au hasard de tout cela, on créerait cette espèce de communauté idéale. Et évidemment, en France, dans la chanson, c'est Michel qui a réussi à créer cela. Je trouve ça magnifique. Donc, j'ai eu envie de chanter cette chanson pour revivre l'espace de ces quelques suites harmoniques, ces quelques minutes de chanson, revivre et vivre, du moins, dans cette société indépendante.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des. C'était sans doute un jour de chance qui cueillir le ciel au creux de leurs mains. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi.
Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le.
C'est une romance d'aujourd'hui.
Et nous allons terminer cette émission avec ton dernier tube, Le Mal Aimé, en te disant simplement que tu n'es pas mal aimé, car au cours de cet été, d'autres chanteurs t'ont souvent chanté.
Je disais que j'avais l'espèce d'horrible sensation de tromper les autres en chantant leurs chansons. Mais je ne sais pas pourquoi, quand on me dit qu'on me chante, j'ai une merveilleuse sensation qui est totalement à l'opposé de cette sensation de tromperie. Et je suis par contre super sensible. Je suis très esquimau dans ce sens-là. Quand j'ai pris ma femme l'espace d'une chanson, et en plus différents collègues et camarades à moi, ça me touche profondément.
À la fois rare, insolite, issu des archives de l'une des émissions phares des années 70, c'était 5-6-7. Le concept, vous l'avez compris, faire chanter à des artistes les succès des autres. Et dans ce numéro, eh bien, le micro est étendu à Claude François. La nuit prochaine, ce sera au tour de France Gall et Michel Berger, puis Serge Lama. Voilà, on vous offrira deux émissions à la suite. Ce sera juste après la libre antenne, à 1h donc. Ou alors, vous pouvez aussi aller sur le site et l'application Europe 1 pour réécouter, par exemple, celle avec Claude François. Dans un instant, ici, on en parlait sur Europe 1. L'actualité sous l'angle de la psychologie avec notre psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres. Nouvelle diffusion, on a parlé ce lundi d'un sujet très important. Un projet de loi sera débattu au Sénat aujourd'hui, mardi, l'euthanasie. Et on va en parler avec leur invité Laurent Frémont, enseignant en droit constitutionnel à Sciences Po Paris et fondateur du collectif Tenir ta main. Ce sera juste après Face No More avec I'm Easy.
Why I'm easy.
Alors au départ, cette chanson, c'est un titre de Lionel Richie qu'il a écrit et composé pour les Commodores en 1977, Easy, et qui a été repris ici par le groupe américain Faith No More sous le titre I'm Easy, et c'est sorti en 1993. On vous souhaite une très bonne nuit et bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec notre psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres. Ils nous donnent rendez-vous tous les après-midi de la semaine de 15h à 16h. Voici « Et si on en parlait ?»
Aujourd'hui, on va parler du projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. Dit projet de loi fin de vie, il arrive au Sénat demain. Ce n'est pas un xième texte de loi sur la santé en France dont il est question, mais d'un vrai basculement sociétal. Et on a une heure pour bien comprendre les enjeux de ce texte, Marie-Estelle Dupont.
Oui, quand j'observe ce qui se passe en France, je me dis qu'Orwell était un garçon optimiste. La mainmise de l'État sur notre corps, notre pensée, nos déplacements, les QR codes, la suppression des rites funéraires pendant la pandémie, rappelez-vous, la réduction de la vie, de la mort et de la santé à des données statistiques auront entériné la déshumanisation en marche de notre société si prompte à se vanter d'être éclairée et inclusive. Alors le sujet du jour, chers auditeurs d'Europe 1, ce n'est pas le droit individuel de se suicider. C'est ce qu'une société dit lorsqu'elle revient sur l'interdit de tuer, qui n'est pas religieux, je le rappelle, mais civilisationnel. Je veux, dans la précipitation actuelle, à inscrire dans le droit français l'injection létale pour les malades, mettre une virgule, des points de suspension, faire un pas de côté, pour penser le bouleversement anthropologique d'une société qui inscrit dans sa loi, avec une insoutenable légèreté, je trouve, la possibilité de tuer sans que les proches aient leur mot à dire. Le discours progressiste est un discours sans ponctuation. Il enchaîne les infinitifs comme autant de passages à l'acte pour accélérer dans l'aide à mourir. Quand on se sent légitime, on ne se précipite pas pourtant. Étrange empressement de certains dans la modernité à liquider au plus vite tous ceux qui risqueraient d'être à leur corps défendant trop longtemps dépendants. Pas un mot sur le développement possible grâce à la technique moderne des soins palliatifs. Pas un mot des liens humains dont on sait pourtant qu'ils sont un puissant antalgique tant les hormones d'attachement apaisent la douleur physique. C'est ce qui explique qu'un bébé qui hurle se calme quasiment instantanément dans les bras de sa mère, ou qu'un de mes patients à l'hôpital, dont les tremblements ne cessaient même avec des médicaments, s'apaisa d'un coup lorsque je posais ma main sur son bras avec sa permission. Magie du lien et de la présence qui dit « je suis à vos côtés ». Mais ça coûterait trop cher. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la façon dont on fabrique le consentement et le désir de mourir dans un monde qui bientôt fera de la relation humaine dans le soin le privilège des plus aisés. Car on propose un droit qui deviendra une injonction, puis un devoir. On dira aux dépressifs « Suicidez-vous, n'écoutez pas ceux qui vous disent que la vie vaut la peine d'être vécue, ils vous manipulent, c'est votre droit. » Une possibilité est parfois, chers auditeurs d'Europe 1, ce qui précède une incitation. Je suis inquiète, car bientôt le médecin et l'État auront droit de vie et de mort sur les innocents, et je souhaite en parler aujourd'hui avec Laurent Frémont. Bonjour Laurent, merci
Bonjour,
d'être avec nous sur Europe 1.
Merci à vous.
Je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que vous êtes déjà venus à propos de la question de la suppression des rites funéraires pendant le Covid, puisque pour resituer sur le plan biographique votre histoire, vous avez perdu votre papa pendant le Covid et vous avez reçu un papier qui écrivait « mise en bière immédiate » et qui ne vous a pas permis, en raison des décisions administratives, d'honorer la dépouille de votre papa. Donc vous en avez fait un combat et aujourd'hui vous venez nous parler de cette loi qui sera présentée demain au Sénat. Et sur laquelle on va avoir une heure pour revenir.
Marie-Estelle Dupont, votre ton est grave hein, pendant votre éditorial. Je suis inquiète, c'est ce que vous dites. La loi qui va être soumise aux sénateurs et puis à tous les parlementaires est dangereuse selon vous, Marie-Estelle Dupont. Hein.
Alors, c'est-à-dire qu'elle fait de l'acte de tuer un soin médical. Je crois qu'à la limite, je pourrais presque arrêter mon argumentation ici. C'est-à-dire que là, il y a le glissement. On parlait récemment des manipulations idéologiques de la langue. Je crois qu'en termes de glissement sémantique, on peut pas en faire un plus énorme. Le texte qui va être débattu demain, il rend l'injection létale légale quand le pronostic vital est engagé à court terme. Alors, on sait qu'il y a quand même la loi Leonetti qui permet une sédation profonde et prolongée pour les malades très douloureux et incurables. On a des soignants palliatifs qui sont très mobilisés, qui font un travail extraordinaire en France avec un dévouement immense et qui sont pressurisés pressurisé pour se taire, pressurisé pour travailler avec des moyens qui diminuent sans cesse. Et je pense que parler de consentement dans cette demande, si en face on n'a pas une véritable offre de soins palliatifs, c'est un faux consentement, puisque évidemment, quand les soins palliatifs sont délaissés, la souffrance est telle que la mort apparaît comme la seule issue raisonnable et désirable. Donc je crois qu'il faut vraiment se pencher sur les détails de ce texte, parce que on est en train de modifier les grands principes civilisationnels, les grands principes du serment d'Hippocrate. D'abord ne pas nuire, et puis la liberté des médecins, c'est-à-dire que de proche en proche, on va bien faire comprendre aux médecins que, même si pour le moment il n'y a pas de délit d'entrave, il n'est pas possible pour le moment il n'y a pas de délit d'entrave, mais on sent bien que de proche en proche, ça risque de se réduire et que cette éthique médicale est en train d'être un peu prise en otage par les décisions administratives, les décisions de l'État. Donc je crois que la porte va être ouverte à beaucoup de dérives et qu'il peut y avoir un arrachement du consentement qui va se fabriquer auprès de personnes très très vulnérables. Et puis, je sais pas, je trouve que sur le plan symbolique et sur le plan anthropologique, le fait d'inscrire dans le droit la mort comme un soin et d'inscrire la mort dans le champ médical, c'est quand même une inversion de valeur qui est majeure, qui est immense. Et je pense que Laurent Frémont, qui a rédigé une tribune pour le Figaro, notamment avec Emmanuel Hirsch, Emmanuel Hirsch a écrit « Euthanasie, le dernier acte », qui est un très, très beau livre, très grave aussi. J'avais envie de l'entendre pour qu'il nous dise ce qui le préoccupe, en fait. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans ce texte et dans cette séquence législative dont finalement on parle assez peu ces jours-ci dans les médias, Laurent Frémont ?
Ce qui est sûr, c'est que, comme vous le disiez, on n'est pas sur une question nouvelle. Ça fait 25 siècles qu'on se pose cette question. Est-ce que c'est le rôle du médecin de donner la mort ? Et ça fait 25 siècles que, collectivement, on s'est donné comme réponse que la société doit respecter un interdit de tuer qui comme vous disiez, symbolique, hein, qui est quasi sacré.
C'est le tabou, du meurtre et le tabou de l'inceste qui est à la base de toute civilisation.
Et c'est ça qui réfrène nos pulsions de mort, nos pulsions collectives. Et donc, on avait répondu à cette question et je ne me suis pas penché sur l'histoire de ce sujet. Certains reviennent régulièrement sur cet enjeu. Est-ce que le médecin doit donner la mort ? Et jusque-là, on s'était donné plutôt des réponses prudentes. Mais effectivement, là, on est dans la transgression. Moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que c'est une priorité politique. Pour le président de la République, lors de ses vœux, il l'a mise au même rang que donc trois sujets qui feraient de 2026 une année utile. Donc, vous voyez bien tout de suite la logique est assez mortifère. Pour le président de la République, on sera sur une année utile si on a réussi à légaliser la mort provoquée. Et avec une forte pression sur les parlementaires pour avancer vite, et comme vous disiez, un empressement que je trouve assez inquiétant, parce que on pourrait penser que le but d'une société politique, d'une démocratie, c'est de s'empresser de mettre des soignants à l'hôpital, de mettre des accompagnants dans les établissements pour les personnes âgées, d'accompagner le handicap, etc., les souffrances psychiques. Mais là, c'est vraiment une dérive mortifère qui consiste à privilégier la mort comme réponse collective apportée à la souffrance, et avec beaucoup de légèreté, je pense. Aussi beaucoup de manipulation hein, médiatique et politique. Mais je pense qu'on est là sur un des textes les plus graves de ces dernières décennies et que finalement tout le monde regarde ailleurs, qu'on est dans une forme de silence généralisé et que les grandes consciences soient assez rares pour s'élever face à ce projet.
Pourquoi cette précipitation, oui, selon vous ?
Alors, il y a tout simplement un lobby qui est à l'œuvre depuis des années, mmh, et qui dispose de très forts relais. Et aussi, du point de vue du président de la République, je pense que c'est une manière de laisser un bilan, de montrer que ces deux quinquennats n'auront pas servi à rien. Mais sachant que, comme vous disiez encore, c'est une loi assez facile à faire passer, qui ne coûtera rien et même qui pourra faire des économies à la sécurité sociale, etc.
Oui, je crois que cette précipitation est tout à fait la marque de l'idéologie progressiste qui voit un progrès dans tout ce qui est une manière de contrôler et de maîtriser un peu plus les conditions de la vie, les lois de la nature, la naissance, la mort. Donc on parle d'aide à mourir, donc tuer devient une aide. On parle de GPA éthique, donc louer un utérus est un acte altruiste. On voit bien les manipulations sémantiques. Et c'est le reflet de cette époque où Narcisse est tout puissant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de sacré, il n'y a plus de transcendance. Je suis tout puissant, je suis capable de m'auto-déterminer la date de ma naissance, mon sexe, la date de ma mort, etc. etc. Et c'est une illusion narcissique qu'on va faire passer auprès de beaucoup de gens comme un progrès et qui va être en réalité une emprise terrible sur les plus vulnérables, parce que il faut bien comprendre que quand on perd la santé, quand on n'est plus dans la force de l'âge, dans une époque qui valorise la jeunesse et la performance, on se sent honteux, on se sent coupable de d'être une charge et de ne plus être une fierté peut-être pour sa famille. Donc à partir du moment où on est dans une anthropologie très matérialiste, où la dignité humaine est conditionnée à la productivité, il est évident que les bébés et les vieillards sont peu désirables. Et donc, les plus vulnérables vont être gentiment poussés sur le bas-côté et on va leur dire, écoute, maintenant, il faudrait que tu laisses la place quand même, parce que tu nous renvoies aussi l'image d'une décrépitude et d'une dégradation qui n'est pas très agréable à regarder pour notre narcissisme flamboyant. Donc, il y a la question du coût, évidemment, puisqu'une société, on y reviendra, qui ne fait pas de bébés, bah, c'est une société qui a beaucoup de personnes âgées à porter économiquement. Mais on voit bien que la logique progressiste, elle est là. On estampille du mot de progrès tout ce qui, finalement, selon moi, est une régression vers des pratiques barbares.
C'est intéressant là, ce que vous dites, parce que finalement, ce n'est pas une nouveauté. Ça se pratiquait beaucoup dans les années 70-80, avec les progrès de la médecine. Il y a beaucoup de personnes qui vivaient plus longtemps. C'est ce qu'on appelait les cocktails lytiques, c'est-à-dire qu'on empoisonnait les gens discrètement dans les services des hôpitaux. Et c'est justement face à ces pratiques que les soins palliatifs sont nés, qu'il y a beaucoup de progrès thérapeutiques qui ont pu faire leur apparition. Et donc, c'est finalement une logique assez rétrograde de dire que face à la souffrance, on va éliminer le souffrant plutôt que d'éliminer la douleur ou la souffrance psychique.
Plutôt que de faire un travail psychique collectif de maturité par rapport à l'angoisse de mort aussi, et par rapport à l'angoisse de la finitude. C'est-à-dire que dans les villes, aujourd'hui, on ne voit plus tellement de cortèges, on ne voit plus la mort, on ne voit plus la maladie, elle est cachée. Et je crois qu'il y a un véritable travail de maturité psychique. On a beaucoup avancé dans le progrès technologique, mais on n'a pas beaucoup de maturité sur le plan collectif par rapport à la vulnérabilité et à la finitude. Et vous parliez des soignants, mais en fait, quiconque embrasse une carrière de soignant avec une vocation, que ce soit un infirmier, un psychologue, un médecin, il n'a jamais à cœur la mort. Il embrasse ce métier, cette profession, parce qu'il pense que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc là, on va demander aux soignants d'entériner le fait que, dans certains cas, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Attention, je précise aux auditeurs d'Europe 1 que je ne suis pas en train de débattre du désir individuel de se suicider. Je pense notamment à des amis de ma famille où le couple s'est suicidé parce que monsieur avait la maladie de Charcot et ils ont choisi d'en finir ensemble. C'était leur choix individuel. Nul ne peut juger d'un tel niveau de souffrance. Mais là, on voit bien comment les dirigeants sont en train de faire passer pour de l'altruisme et de l'humanisme quelque chose qui est profondément obscurantiste dans cette vision de la vie.
Marie-Estelle Dupont, qu'est-ce qui pousse un individu à avoir envie de mourir ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, c'est très rarement quand on travaille avec des gens qui ont des idées suicidaires, quand on travaille avec des gens qui ont des maladies chroniques, graves, incurables, douloureuses. Ce qui pousse quelqu'un à avoir envie de mourir, c'est très rarement le désir de mort. C'est en général le désir d'arrêter de souffrir, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que même un jeune adulte qui se suicide parce qu'il a une très très grande souffrance psychique, il vous aura exprimé, en général, si vous avez bien écouté son discours, ou alors s'il fait une tentative de suicide et puis qu'on le récupère après, qu'il ne désirait pas mourir, il désirait arrêter de souffrir, il désirait trouver une issue, une sortie à une situation qui était une impasse. Donc, quand vous cumulez une immense douleur physique, un pronostic vital, et puis un entourage qui n'est pas là, c'est-à-dire une absence de lien, et on sait à quel point l'ocytocine, c'est-à-dire l'hormone d'attachement, peut maintenir quelqu'un en vie. On sait que les gens meurent au moment souvent où ils sont seuls dans leur chambre, tant qu'il y a des proches qui les touchent, qui leur parlent, ça fait monter les hormones d'attachement, et l'ocytocine fait que le dernier souffle n'arrive pas. Donc quand, en plus, les liens s'absentent, que peut-être on fait sentir à mamie que ce serait bien qu'on la libère du poids de sa vieille carcasse parce qu'il serait temps de toucher l'héritage, évidemment que la personne a un sentiment d'abandon. Donc quand vous cumulez la peine morale par absence de lien, et donc le sentiment d'abandon, la blessure de rejet et la douleur physique, oui, vous fabriquez une envie de mourir. Mais ça n'est pas une appétence pour la mort. C'est un désir d'arrêter de souffrir. Et c'est vraiment important, c'est ça le levier en fait.
Et on voit bien l'évolution de la logique là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un dans votre entourage fait une tentative de suicide, eh bien si vous ne lui prêtez pas d'assistance, c'est non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire que c'est du pénal. Et aujourd'hui, toute personne qui fait une tentative de suicide est réanimée par les services de secours. C'est plus de 100 000 hospitalisations par an. Et aujourd'hui, finalement, le message qu'on nous proposerait serait strictement l'inverse, c'est-à-dire il y a une demande de mort, donc on y répond positivement, dans des délais très brefs, avec très peu de garanties, et en faisant passer ça pour un soin, parce que il faut bien, je pense, insister là-dessus, la France serait le premier pays au monde à intégrer le geste létal dans son code de la santé publique. Les quelques pays au monde, et ils ne sont pas très nombreux, qui ont légalisé l'euthanasie, l'ont fait par leur code pénal ou autre, mais la France, en même temps caractéristique, serait finalement une particularité mondiale en intégrant l'injection létale au même titre que d'autres soins.
Oui, et d'ailleurs, ça me fait venir une question. Dans le texte très précis que peut-être les auditeurs d'Europe 1 n'ont pas lu, il est précisé, et vous me reprenez si je me trompe, Laurent Frémont, que la proposition de loi impose aux établissements de santé de permettre et d'organiser l'intervention des effecteurs de l'assistance médicale à mourir. Si on prend le cas de la Suisse, où l'euthanasie est possible, vous allez vous faire euthanasier dans des endroits qui sont réservés, dédiés à ça. Sur le plan symbolique, ça veut donc dire que même un établissement, enfin symbolique et pas que symbolique, un établissement dont le directeur, si par exemple demain j'ouvre une maison de retraite et je dis dans ma maison de retraite, on ne se suicide pas. Donc ça veut dire que si un résident demande la mort, ça ne peut pas avoir lieu dans ma maison de retraite. L'État français pourrait, avec cette loi, dire « Ah non, mais vous ne pouvez pas vous y opposer, on va venir injecter chez vous ». Et moi je dis « Mais non, parce qu'il va y avoir un effet de contamination psychologique, les autres résidents vont peut-être demander la même chose, je veux éviter cela ». Et on va me dire « Non, madame, vous ne pouvez pas avec cette loi ».
C'est explicitement écrit dans le texte, le directeur d'établissement est tenu de permettre l'intervention d'effecteurs extérieurs qui vont venir euthanasier la personne dans vos murs. Et donc, il faut bien imaginer le traumatisme que c'est, notamment pour les EHPAD associatifs, pour toutes ces structures, les maisons de soins palliatifs qui accompagnent des personnes avec une éthique, avec une philosophie très particulière. La violence de ce message qui est de dire « On va à l'encontre de votre projet, à l'encontre de vos valeurs, on va vous imposer dans vos murs un geste létal » avec effectivement un impact sur les chambres voisines, sur les équipes, sur l'organisation. Enfin, c'est là, pour le coup, un degré de coercition. Vous disiez que le délit d'entrave n'était pas prévu. En fait, il avait été prévu par l'Assemblée. Il a été levé par la Commission des affaires sociales du Sénat. Mais on a toujours cette coercition très forte contre les établissements de santé, établissements médico-sociaux, donc établissements pour personnes handicapées, établissements pour personnes âgées, qui seront tenus d'autoriser ce geste, même s'il va à l'encontre de leur pratique et de leur éthique d'établissement.
Accessoirement, une injection létale, ce n'est pas un spectacle. Donc là, ça veut dire qu'on est en train de permettre de le faire partout.
Et puis, il faut mesurer ce que c'est. Ça revient, rappelons-le, parce qu'il faut, je pense qu'il faut être très concret. Malheureusement, ça revient à injecter un poison à quelqu'un pour que son cœur s'arrête rapidement. Donc, tout sauf un soin.
Sur les conditions qu'il faut respecter pour accéder à ce qui est appelé dans le texte l'assistance médicale à mourir. Il faut être âgé d'au moins 18 ans, se trouver dans une situation médicale définie par la loi. Alors là, ouvrez les guillemets. On ouvre les guillemets. Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire au traitement, fermons les guillemets. Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Quelle est la réalité que revêt cette formulation et que veut dire à court terme ?
Alors,
Laurent Frémont.
Là, on est sur clairement une version plus restrictive qu'à l'Assemblée, parce qu'à l'Assemblée, c'était très large. Mais donc là, c'est ce que la Commission des affaires sociales a choisi comme terme.
Oui.
Et donc, on est sur les situations qui étaient déjà couvertes par la loi, ce qu'on appelle la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui prévoit qu'une personne dont le pronostic vital est engagé à court terme peut être endormie, finalement, ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. Donc, c'est une forme d'anesthésie générale.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire... un départ dans quelques heures ou quelques jours.
D'accord.
Donc là, c'est vraiment quand la mort est proche. Mais c'est évidemment une bande temporelle qui sera supprimée par l'Assemblée nationale, qui va revenir à son texte d'origine. Mais en tout cas, c'est une situation qui est déjà couverte par la loi, parce que on peut aujourd'hui endormir une personne qui va mourir si ces conditions sont réunies. Mais c'est juste que là, on change de geste. Mmh. Là, on parle d'endormir, on parle d'apaiser, alors qu'avec ce texte, c'est l'injection létale, donc c'est empoisonner tout simplement une personne qui est mourante.
Ouais. Marie-Estelle Dupont, on peut dire que c'est un virage anthropologique, et pourquoi ?
Ah bah bien sûr, oui, complètement. Oui, c'est-à-dire que la loi Leonetti par la sédation longue et prolongée, notamment d'enfants, la mort est la conséquence de cette recherche de soulagement. Là, comme dit très bien Laurent, la mort est l'objectif immédiat. Donc, on voit bien que le virage anthropologique dont je parle déjà depuis 5 ans, 6 ans, hein, depuis la redéfinition de la santé pendant le Covid, qu'on réduit à finalement une statistique et l'éviction d'une maladie dans le cas du Covid, et ensuite la levée des cérémonies funéraires, on voit bien comment l'administration devient ce qui dirige l'éthique médicale. Donc il y a une inversion des valeurs, c'est-à-dire que les procédures qui doivent être au service d'une recherche de justice dans la santé vont gouverner l'action du médecin. Donc en fait, il n'y a plus finalement de liberté pour le médecin. Quand l'administration coche, par exemple, mise en pierre immédiate, ça veut dire que quoi qu'elle fasse, une maman ne peut pas embrasser son enfant décédé. Enfin, je ne sais pas si on se représente la déshumanisation qu'on est en train de mettre en marche au nom du progrès, au nom de la modernité, au nom du bien. Alors, je crois que c'est un progressisme qui est extrêmement cynique, et quelque chose qui m'interpelle, dont on parlera après la pause, c'est que les proches, et notamment la personne de confiance, vous savez qu'à la moindre anesthésie générale, vous désignez une personne de confiance, ne pourront plus venir nuancer la demande de la personne. Ça veut dire que le mari qui connaît très bien sa femme, qui sait qu'elle est en train de parler dans un épisode, dans une séquence qui va être dépassée dans quelques temps, n'aura pas son mot à dire. Pourquoi ? Pourquoi on prend comme ça en otage le malade ? Je veux avoir la réponse de Laurent Frémont après la pause.
Ce sera dans quelques instants. Vous avez entendu la petite musique. On parle aujourd'hui du projet de loi sur l'euthanasie et le suicide assisté. 10 projets de loi fin de vie qui revient au Sénat demain. 01 80 20 39 21 si vous voulez témoigner. L'appel est non surtaxé. Petite pause et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
Marie-Estelle Dupont.
15h, 16h sur Europe 1.
Romain Desarbres.
Le projet de loi fin de vie, projet de loi qui vise à autoriser l'euthanasie et le suicide assisté en France, revient au Sénat demain. On en parle avec Marie-Estelle Dupont et on est avec Laurent Frémont, cofondateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité. Vous êtes également maître de conférence à Sciences Po. On va être avec Armel dans un instant, qui a 56 ans, qui nous appelle de Lyon. Il y a beaucoup d'appels au standard d'Europe 1. Marie-Estelle Dupont, vous vouliez revenir sur le fait qu'avec ce texte, les proches d'un patient n'auront pas leur mot à dire. Ça, c'est très important. Hein.
Mais je trouve que c'est même ce qui doit mettre la puce à l'oreille de quelqu'un qui aurait de bonnes raisons de penser qu'il faut faciliter l'euthanasie, etc. Je trouve que c'est véritablement une laisser la personne vulnérable totalement sous l'emprise d'un médecin qui est tout puissant, puisqu'on a d'un côté une collégialité qui n'est que rhétorique hein, dans le texte, puisqu'au final, c'est le médecin qui a la décision tout seul. Et de l'autre côté, on isole quelqu'un. Mais quand on laisse le libre choix à quelqu'un, on n'a pas peur qu'il parle avec les autres. Donc, on n'a pas peur de la vie du mari, du fils, de la fille, de l'aidant. Peut-être un aidant familial qui passe énormément de temps avec sa mère atteinte d'une maladie grave et qui va dire « Non, mais je sais exactement quand est-ce que maman dit qu'elle a envie de mourir. C'est exactement quand elle a pris tel traitement. 2 heures avant, elle a un petit down. Et puis après, ça remonte, etc. etc. » Quand vous vous occupez de quelqu'un toute la journée, vous savez que la personne, quand elle est déshydratée, elle devient confuse, mais qu'en fait, elle est confuse parce qu'elle n'a pas bu assez. Enfin, on connaît son malade quand on est proche. Et donc, on a un regard à apporter qui peut aider, justement. Et donc, je trouve très pernicieux, très étrange que les proches n'aient pas leur mot à dire. Donc, j'aurais aimé entendre Laurent Frémont sur ce point.
Mais vous avez rappelé que j'étais malheureusement arrivé à ce sujet pendant la période du Covid. Pour moi, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire qu'on isole les patients, on isole les personnes âgées. Et là, on arrive vraiment à l'aboutissement d'une logique où on est dans un face-à-face entre la personne et un médecin tout-puissant qui a finalement pouvoir de vie et de mort, c'est le cas de le dire, parce que c'est lui qui instruit la demande, c'est lui qui l'apprécie et c'est lui qui a la décision finale. et les proches, même l'équipe soignante en fait, l'équipe qui est au quotidien aux côtés de cette personne, n'est même pas associée à la décision. Et d'ailleurs, c'est même vrai pour tout ce qui a trait au recours. On ne peut pas contester devant la justice une décision d'assistance à mourir. C'est que la personne elle-même.
Donc les proches n'ont pas leur mot à dire, sauf en cas de tutelle ou de curatelle, éventuellement, là, on a le droit de dire quelque chose si la personne est sous curatelle.
Tout à fait.
Les proches n'ont pas leur mot à dire. La collégialité est finalement réduite à peau de chagrin, en fait, puisqu'il y a un médecin
simple.
Tout-puissant.
Il nous parle d'une décision collégiale, mais en fait, le médecin doit juste consulter un second médecin qui potentiellement n'a même pas à examiner la personne. Donc un médecin qui peut être à distance et qui donne un oui de principe. Et un autre professionnel de santé qui, là non plus, potentiellement, ne connaît pas la personne. Donc on voit très bien les abus de faiblesse, on voit bien cette pression sur les plus vulnérables. Et donc on est dans cette même logique d'une personne isolée face à une médecine toute puissante où la personne n'est pas du tout prise dans l'intégralité de ses relations et de son existence.
De son environnement. On sait bien que la médecine, c'est aussi un environnement psychosocial. Donc en fait... À propos de décision collégiale, ce n'est pas une décision collégiale, c'est un avis consultatif.
C'est ça, qui n'est pas contraignant.
D'un collège de médecins, mais qui n'est pas contraignant.
Oui. Et donc là, on est vraiment dans une situation de toute puissance. Et ça fait des décennies qu'on se bat pour rééquilibrer la relation de soins, qui est, on le sait, par nature asymétrique, et qu'on essaye vraiment d'associer les citoyens à la décision médicale, etc. Et là, c'est un retour en arrière total. Où on a le médecin sachant qu'il est en situation de toute puissance et qui peut, d'un trait de plume, tout simplement envoyer quelqu'un vers la mort.
Les personnes qui souffrent de déficience intellectuelle peuvent décider d'être euthanasiées avec ce texte.
Oui, alors c'est hyper intéressant en fait. À l'Assemblée, il y a eu pas mal d'amendements de députés qui disaient quand même une personne qui n'a pas toutes ses capacités intellectuelles ne peut pas librement choisir de mourir. Et tout a été rejeté par le gouvernement, par Olivier Falorni, qui est l'auteur de cette loi.
Donc à ce jour, oui.
Donc à ce jour, oui.
Oui, le texte n'est pas voté, hein, mais dans le, ce
qui dans la version vote, même validée par la Commission des affaires sociales du Sénat.
La version qui revient au Sénat demain.
Oui, donc non seulement il n'y a aucune évaluation psychologique ou psychiatrique obligatoire, mais en plus, une personne qui souffre de déficience intellectuelle est tout à fait éligible à l'aide à mourir à partir du moment où elle en fait la demande.
Oui, et surtout que la décision est prise très rapidement, hein, puisque on le voyait, c'est à court terme. Donc,
oui,
ça veut
et puis
dire
on
que
a un délai de 48
heures. S'il n'y a pas d'évaluation, elle ne se fera pas, enfin, il n'y en aura pas du tout. Ouais, ouais.
C'est ça que je trouve assez effrayant, c'est qu'on a, il y a seulement deux jours entre la décision et l'effection, et ça, sachant que c'est un délai qui peut être abrogé par le médecin s'il estime nécessaire.
Oui.
Et en plus, on n'a même pas de contrôle a priori.
Je croyais que les deux jours avant l'injection létale étaient incompressibles.
Ah si, le médecin peut, s'il le juge utile, supprimer ce délai et surtout encore une fois pas de contrôle a priori, c'est-à-dire que on contrôle une fois que la personne est déjà morte. Donc on est sur un acte qui par nature est irréversible parce que encore une fois on empoisonne cette personne et on prévoit pas tout simplement de contrôle avant l'acte, ce que d'autres pays ont pu prévoir, hein. Mais donc ça montre bien que la volonté vraiment c'est d'en finir le plus vite possible.
Marie-Estelle Dupont.
Oui, c'est pas du tout la même logique qu'en Suisse, hein, où au contraire, il y a énormément de garde-fous, il y a
c'est
presque des incitations, c'est pas médicalisé, il y a finalement